serai sans doute assez rapidement, mais pour l'instant, j'ai eu envie de couvrir assez largement, mais pas trop superficiellement, j'espère, un champ à partir d'une intuition qui pourrait pourtant sembler une évidence. La science-fiction ne connaît pas l'avenir. Régulièrement, on se tourne vers elle et on évalue ses prédictions, celles de Jules Verne ou de Star Trek. D'une part, si l'on s'étonne de leur acuité, on ne calcule jamais leur taux de réussite. D'autre part, de nombreux inventeurs se sont inspirés des romans qu'ils ont lus. La science-fiction ne prétend pas prédire l'avenir, à moins de dérapages sérieux comme c'est le cas pour la scientologie. Elle n'a que des prétentions littéraires ou cinématographiques. Dans une perspective sociocritique, cela signifie qu'elle fait partie prenante d'un imaginaire social spécifique, ancré dans le présent et que sa façon de représenter l'avenir en est un élément central. Frederick Jameson explique que toutes les utopies futuristes tentent de régler un dilemme spécifique, un problème social fondamental qui apparaît comme la source de tous les problèmes du présent. Chez Thomas More, c'est l'argent et la propriété, Rousseau, la dépendance, Saint-Simon, l'administration, Fourier, le désir, Kalbach, l'écologie, etc. Pour Jameson, et je le cite, « la vision qui ouvre sur l'histoire à partir d'une situation sociale particulière doit encourager des simplifications outrancières de cet ordre. Ainsi rendues visibles, misère et injustice doivent alors paraître se former et s'organiser autour d'un mal ou d'un tort spécifique. » On peut constater qu'au-delà des utopies, tous les imaginaires du futur fonctionnent ainsi. Le futur s'imagine toujours autour d'un nombre très limité d'éléments du présent qui sont alors extrapolés, transformés. Ces éléments peuvent être de nature politique, biologique, technologique, spatiale, etc., et agissent sur le texte futuriste comme autant de novums, de traces archéologiques. Cette conception sémiotique et idéologique des représentations du futur, utopique ou non, s'inscrit parfaitement dans celle de l'imaginaire social tel que défini par Pierre, qui me servira de base méthodologique. Pour rappel, il propose de retenir quatre types d'ensembles de représentations qui seraient communs à toutes les sociétés: l'histoire et la structure de la société, la relation entre l'individu et le collectif global, la vie érotique et le rapport avec la nature. Puisque c'est d'abord et avant tout la façon dont les sociétés s'imaginent leur propre avenir, c'est surtout l'histoire et la structure de la société que je m'arrêterai. Il s'agit des représentations du passé. Je le cite, donc, il s'agit des représentations du passé, du présent et de l'avenir, des représentations des institutions, des hiérarchies, des collectivités. Bien sûr, cet ensemble interagit avec d'autres, particulièrement la relation entre l'individu et le collectif global, puisque l'avenir imaginé peut tout aussi bien être individuel ou collectif et met en jeu de nombreuses tensions sociales, irriguées par différentes idéologies et rapports de pouvoir. Ensuite, l'imaginaire de l'avenir mobilise de manière souvent majeure et récurrente un rapport singulier avec la nature, du déluge à l'astrologie, en passant par les changements climatiques. Outre ces ensembles de représentations, j'emprunte à Pierre ces cinq modes de sémiotisation de la réalité qui en soulignent la littérarité. Une narrativité, une poéticité, des régimes cognitifs, une iconicité et une théâtralité. À cette étape exploratoire de mon projet, je dirai seulement quelques mots des régimes cognitifs avant de m'arrêter seulement sur la narrativité. Donc, j'avais l'intention de passer à travers tous les modes, mais finalement, j'aurais pas le temps, sinon j'aurais dit qu'il y a des banalités, j'ai l'impression. Donc, avant de m'arrêter seulement sur la narrativité, de proposer une typologie qui prend en compte tous les modes de sémiotisation par ailleurs. Donc, les régimes cognitifs. L'imaginaire du futur met en jeu de nombreux régimes cognitifs selon les époques et à l'intérieur d'une même société. La méthode de prédiction de l'avenir est parfois un bon indicateur en ce sens. Et je cite Ariel Colonomos, « Un oracle, un sociologue ou un ordinateur sont chacun en mesure de produire une anticipation. Les savoirs sont historiquement contingents, du moins en partie. » Toutefois, précisons que ces régimes ne correspondent pas à des époques ou des sociétés uniques. Ils cohabitent, même si l'un domine les discours d'une époque. Je distingue néanmoins un régime magique et ou folklorique, largement fondé sur l'interprétation de signes naturels pour prédire l'avenir. Un régime religieux et ou mythique, qui prédit l'avenir à partir de grands récits mythologiques sacrés ou révélés. Un régime philosophique et ou idéologique qui pense l'avenir à partir de concepts, d'idées abstraites, de présuppositions et de la logique. Et un régime scientifique et ou technique qui prévoit l'avenir par l'observation empirique, l'invention de technologies, la modélisation, la statistique, etc. Les nombreuses formes narratives de récits du futur permettent de réfléchir différemment la temporalité, tant de l'histoire comme celui du récit, son rapport au présent et au passé, à l'individu et au collectif. Certaines offrent un grand récit, d'autres un instantané, une description détaillée de ce monde qui relève parfois de l'hypotypose. Certaines sont fortement ancrées dans les régimes cognitifs qui les ont vus naître, d'autres apparaissent comme des expériences de pensée plus théoriques, philosophiques ou scientifiques. Selon Colonomos, je le cite, « Sur le plan narratif, le récit du futur est une séquence linéaire dont le pivot est la clôture de la séquence qui la précède et qui devient par là son passé. Un horizon d'attente, semblable en cela à une tranche de vie, suppose un début et un aboutissement. D'ailleurs, certains imaginaires du futur s'intéressent au futur rapproché, hein, le « near future », celui que connaîtront possiblement les lecteurs ou leurs premiers descendants et qui s'inscrit dans une temporalité humaine, alors que d'autres imaginent le futur éloigné, le « far future », qui concerne davantage le temps des civilisations ou même le temps de l'évolution de la géologie du cosmos. Le choix entre un futur proche et éloigné influence la forme et le temps narratif du récit, mais il n'est pas forcément décisif quant à l'ampleur des changements mis en récit. Le moment de rupture, hein, l'apocalypse, révolution, singularité, voyage spatial, semble pouvoir subvenir à tout moment et déclencher un changement de paradigme, alors que les futurs très éloignés sont parfois étonnamment familiers. Donc, à penser à Fondation, par exemple, de Isaac Asimov. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est de quelle façon le futur devient une véritable histoire que l'on peut raconter à partir des schémas du passé et du présent et en projetant les fantasmes d'une époque, en prolongeant des tendances que l'on espère ou que l'on craint comme étant immuables. Ainsi, les mythes et les épopées, mais aussi les récits historiographiques, les voyages temporels, les utopies, les récits apocalyptiques et eschatologiques offrent tous des structures narratives récurrentes, mais en même temps historiquement datées. Le rapport au temps, historique, chronologique et narratif, varie grandement parmi ces modèles. Naturellement, il faudrait commencer ce panorama des narrativités du futur par les prophéties et les oracles, par les cosmogonies cycliques et les récits mythologiques, qui chacun à leur façon, le plus souvent cryptique, sibylline, prédisent l'avenir et en proposent donc un récit plus ou moins structuré. Je me limiterai à citer Marie-Hélène Huet qui explique que les prophéties, notamment celles de Nostradamus, façonnent paradoxalement un imaginaire du futur qui se situe hors du temps et toujours à réinterpréter. Je la cite, « The paradox of prophecy becomes more evident. It always remains a text yet to be translated. It is a reading open to new events, never definitely rooted in a given period of time. Prophecy, it would seem, can never be exhausted by history. » Or, ces prédictions se trouvent par ailleurs souvent enchâssées dans de véritables récits de fiction. Hein. On pense au mythe d'Édipe, à l'Iliade, en passant par la Bible ou à des romans populaires contemporains comme Good Omens. À la Renaissance, alors que le régime cognitif dominant s'éloigne progressivement d'une domination religieuse pour adopter le rationalisme, l'utopie émerge sous la plume de Thomas More en 1516. Cette forme littéraire, qui vise à décrire minutieusement une société autre basée sur des principes différents, est essentiellement un déplacement géographique, hein, une île au départ. Toutefois, la forme narrative qu'elle instaure est originale et influencera fortement les premiers récits laïcs du futur. Nul personnage ou péripétie, simplement la description d'un voyage dans cette île située nulle part. D'ailleurs, le titre de la première traduction française annonce clairement la forme que prendra le texte. La description de l'île d'Utopie, donc dans la version française de 1550, la description de l'île d'Utopie où est compris le miroir des républiques du monde. Plusieurs suivirent l'exemple de More pour énoncer leur vision d'un monde idéal, mais il faut attendre 1733 avec les Memoirs of the 20th Century de Samuel Maiden pour que ce monde utopique se déplace vers le futur. Le temps est alors présenté comme un véritable lieu que l'on peut visiter, où l'on peut voyager. Selon Clyde Dragan, « Utopia No Place was translated into the Utopia, the good place, and into Uchronia, the good time ahead, both seemingly close to an advancing humanity. » L'exemple le plus marquant apparaît tout de même en 1771 sous la plume de Louis-Sébastien Mercier dans son célèbre « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais ». Il faut dire que les circonstances historiques dans lesquelles il rédige son livre prêtent particulièrement bien à envisager un avenir différent hors d'un imaginaire religieux ou mythique. La citation qu'il met en exergue de Leibniz m'inspira d'ailleurs le titre de cette conférence « Le temps présent est gros de l'avenir ». Mercier utilise la forme du rêve prémonitoire pour énoncer son utopie. Après de nombreuses pages à critiquer la société française de son époque, citant un Anglais qui en constate les décadences, il faut attendre le chapitre 2 pour avoir accès finalement au rêve du narrateur qui s'éveille, dans son rêve, en 2440, âgé de 700 ans, le visage ridé, les cheveux blancs. Nous sommes d'une certaine façon dans le paradigme du voyage temporel, alors qu'un contemporain est projeté dans le futur, voyage qu'il nous raconte au passé. Ses premières impressions sont corporelles, il constate les limites de son corps vieilli, puis il sort à l'extérieur et nous donne accès à ce premier monde futuriste. En sortant de chez moi, je vis une place publique qui m'était inconnue. On venait d'y dresser une colonne pyramidale qui attirait le regard des curieux. J'avance et je lis très distinctement l'an de grâce 2440. Tout était changé. Tous ces quartiers qui m'étaient si connus se présentaient à moi sous une forme différente et récemment embellie. Je me perdais dans des grandes et belles rues proprement alignées. J'entrais dans des carrefours spacieux où régnait un si bon ordre que je n'y apercevais pas plus le léger embarras. Je n'entendais aucun de ces cris confusément bizarres qui déchiraient jadis mon oreille. Un citoyen, que je reconnus dans la suite pour un savant, s'approcha de moi et me dit poliment, avec une gravité ferme, « Bon vieillard, à quoi sert ce déguisement? Votre projet est-il de nous retracer les ridicules usages d'un siècle bizarre? » Ainsi, les premiers novums qui sautent aux yeux du rêveur sont l'urbanisme et la mode des Parisiens, dans une évidente poétique de l'inversion, du contraste. D'ailleurs, aucun détail n'est donné sur ce monde futur. Tout est d'abord décrit par la négative, par le contraste. Donc, il continue. « La manière dont il était habillé, quoique nouvelle pour moi, n'avait rien qui me déplut. Son chapeau n'avait plus cette couleur triste et lugubre, ni ses cornes embarrassantes. Il n'en restait que la calotte, qui était assez profonde pour tenir dans la tête, et qui d'ailleurs était entourée d'un bourrelet. Ses cheveux proprement tressés formaient un nœud derrière la tête, et un léger soupçon de poudre leur laissait leur couleur naturelle. Ce simple accommodage ne présentait point une pyramide plâtrée de pommade et d'orgueil. » Donc, en 700 ans, on a juste appris à mettre moins de poudre, en gros. On payait comptant dans chaque boutique et ce peuple ami d'une probité scrupuleuse ne connaissait point ce mot crédit qui d'un côté ou de l'autre servait de voile à une industrieuse friponnerie. L'art de faire des dettes et de ne les point payer n'était plus la science des gens du beau monde. Et finalement, on ne voyait point un malheureux haletant tout en sueur, l'œil rouge et la tête comprimée, gémir sous un poids qui n'était fait que pour une bête de somme chez un peuple humain. Le riche ne se jouait point de l'humanité moyennant quelques pièces de monnaie. C'est donc le récit futuriste d'un révolutionnaire, on le comprend assez bien, lui qui ne fait pas qu'imaginer le futur, mais qui veut en diriger l'évolution. Et par le fait même, il en annonce l'évolution des formes. On associe souvent l'émergence des récits du futur au développement de la science, mais le renouvellement des formes de narration du futur dans lequel s'inscrit Mercier, c'est surtout ceux qui vont le suivre au 19e siècle, s'explique aussi autrement. Selon Paul Alcorn, la tendance des auteurs du 18e siècle, surtout britanniques, hein, comme Alexander Pope, Jonathan Swift ou Laurence Sterne, d'inverser les codes romanesques pour créer des antiformes, a également mené à la naissance du roman futuriste comme tentative de créer un anti-roman historique. C'est par exemple le cas de Jane Webb et de son « The Mummy », point d'exclamation, « A Tale of the 22nd Century » en 1827. On pourrait d'ailleurs voir le déplacement dans le futur de l'utopie de Mercier comme un détournement formel. Donc, il a détourné l'utopie qui était supposée être spatiale pour en faire une utopie historique. Puis, on assiste à la naissance, au début du 20e siècle, d'une autre antiforme, hein, la dystopie, qui apparaît dans les années 20, même si l'on peut trouver dans Le monde qu'il sera d'Émile Souvestre, un précurseur dès 1846. La dystopie peut sembler succéder naturellement à l'utopie, les deux côtés d'une même pièce, l'une optimiste et l'autre pessimiste, mais sur le plan de la narrativité de l'imaginaire du futur, il n'en est rien. Entre Mercier et Zamiatine, il y a eu deux siècles d'évolution de la poétique du futur narratif pour atteindre ce que Félix Bodin appelait de ses voeux en 1834 dans son manifeste intitulé « Le roman de l'avenir », soit l'émergence d'une littérature futuriste qui ne serait ni utopique ni apocalyptique, mais plutôt romanesque. Les exemples sont innombrables au 19e siècle, justement caractérisé par l'anticipation, notamment sous la plume de Jules Verne, mais la bataille de Dorking en 1871 et Time Machine en 1895 offrent des jalons importants sur le plan de la narrativité. Commençons par Time Machine, parce que nous verrons ensuite que la bataille de Dorking offre un changement de structure narrative qui va se répercuter seulement plus tard. Comme je le disais, l'utopie de Mercier s'apparente à un voyage temporel. Il s'agit d'un récit futuriste rendu accessible et rassurant par un narrateur contemporain du lecteur qui agit comme l'alter ego, son alter ego, soulignant de manière évidente les novums et offrant une analyse dirigée, encadrée des changements survenus. Le temps du récit cadre demeure ainsi l'époque contemporaine de l'écriture, ce qui rend particulièrement transparentes les comparaisons et les critiques du présent. Aussi, la particularité du voyage temporel, qu'il soit en rêve ou grâce à une machine ou encore la cryogénisation, est l'ellipse temporelle qui se retrouve au cœur du récit. Nous ne sommes pas tant devant un récit continu des temps futurs, nous assistons plutôt à un escamotage temporel assez radical. Nous passons d'un présent à un autre, de l'époque contemporaine à un moment précis et unique dans le futur, dont on a ainsi qu'un instantané, une description purement synchronique. Le passage d'un état à l'autre du monde n'est pas explicité et ne peut que faire l'objet de spéculations de la part du narrateur protagoniste, dont les hypothèses sont aussi valables que les nôtres en tant que lecteur. Ce qui signifie aussi qu'il s'agit d'un voyage individuel dans le temps. La présence d'un sujet unique hors de son temps, dont le rapport à ce monde ne peut être qu'exotique, radicalement distancié et l'objet de sa curiosité et de comparaison, oriente profondément cette forme de récit du futur. L'exemple le plus célèbre de récit de voyage temporel est sans nul doute le roman de Time Machine que publie H.G. Wells en 1895, même si ce n'est pas le premier, puisque l'auteur espagnol Enrique Gaspar avait déjà publié en 1887 un roman intitulé El Anacronopete de Time Ship en anglais. Tout comme Wells, le titre annonce bien que le focus est mis sur la technologie qui permet de voyager dans le temps, la machine elle-même qui se retrouve au cœur, machine d'ailleurs dont le docteur Fostrol s'amuse à théoriser la conception en 1899 dans un texte publié au Mercure de France et intitulé « Commentaires pour servir à la construction pratique de la machine à explorer le temps ». Et je cite le docteur Fostrol. « Il n'est pas plus malaisé de concevoir une machine à explorer le temps qu'à explorer l'espace, soit que l'on considère le temps comme la quatrième dimension de l'espace, soit comme un lieu essentiellement différent par son contenu. On définit usuellement le temps, le lieu des événements, comme l'espace et le lieu des corps. Ou, avec plus de simplicité, la succession alors que l'espace est la simultanéité. Si nous pouvions rester immobiles dans l'espace absolu, le long du cours du temps, c'est-à-dire nous enfermer subitement dans une machine qui nous isole du temps, tous les instants futurs et passés seraient explorés successivement, de même que le spectateur sédentaire d'un panorama à l'illusion d'un voyage rapide le long de paysages successifs. » Voilà en effet le parfait exemple d'une science des solutions imaginaires. Or, si les machines fascinent tant, hein, je vous ai montré plein de versions de la machine, de machines temporelles ici, Wells est bien le premier à décrire le voyage temporel vers le futur, puisque le roman de Gaspar concerne surtout des voyages dans le passé et que Fostrol nous décrit uniquement la machine et les principes de voyage temporel. Arrêtons-nous un peu sur la première description qu'offre le voyageur temporel de Wells de ce futur très éloigné, hein, il s'en va dans 802 000 ans, qui survient environ au quart du roman de Wells. Lorsque le voyageur s'arrête, arrête sa machine et en sort, il doit se protéger d'une averse de grêle, puis voici ce qu'il voit. Je le cite, « Une figure colossale, taillée apparemment dans quelques pierres blanches, apparaissait incertaine au-delà des rhododendrons, à travers l'averse brumeuse. Mais le reste du monde était invisible. Il serait malaisé de décrire mes sensations. Comme la grêle s'éclaircissait, j'aperçus plus distinctement la figure blanche. Elle était de marbre blanc et rappelait par sa forme quelques sphinx ailés. Le piédestal, me sembla-t-il, était de bronze et couvert d'une épaisse couche de verre de gris. L'ensemble était détérioré par les intempéries et donnait l'idée désagréable d'être rongé par une maladie. Je restai là à l'examiner pendant un certain temps, une demi-minute peut-être, ou une demi-heure. Déjà, j'apercevais d'autres vastes formes, d'immenses édifices avec des parapets compliqués et de hautes colonnes au flanc d'une colline boisée qui descendait doucement jusqu'à moi à travers l'orage apaisé. Comme Mercier, l'inconfort physique de l'arrivée est immédiatement suivi du spectacle qu'offre un monument, une sculpture, témoin non vivant par excellence du passage du temps. En fait, le temps lui-même, les marques qu'il laisse, hein, le vert de gris, la détérioration par les intempéries, la perception relative de l'observateur, une demi-minute ou une demi-heure, voire le temps qu'il fait, la grêle, l'averse brumeuse, domine le texte dès le début. Ensuite, le flou qui entoure les sensations du voyageur, qui sont d'abord incertaines, brumeuses et qui se précisent progressivement, me semble tout à fait significatif de ce modèle narratif singulier. L'ellipse temporelle n'est pas un état normal pour une subjectivité humaine, qui doit s'adapter, se réancrer dans un nouveau présent, seul temps admissible. Les quelques expériences similaires de rupture temporelle auxquelles nous avons accès, le sommeil, l'avion, l'amnésie, le coma, nécessitent toute une période d'adaptation plus ou moins longue et ardue en fonction de sa radicalité. Un voyage de 800 000 ans provoquerait sans nul doute une bonne période de décalage horaire. Un roman qui aborde magnifiquement ce parachutage temporel et qui ne peut qu'ébranler profondément la psyché humaine est Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut. Mais mentionnons aussi tous les récits de cryogénisation ou de réveil dans un futur très éloigné. Mais je reviens au voyageur temporel de Wells qui émerge de la brume temporelle et commence à découvrir le monde du futur et ceux qui l'habitent. Je considérais plus curieusement et avec moins de crainte ce monde d'un avenir éloigné. Dans une fenêtre ronde, très haut dans le mur du plus proche édifice, je vis un groupe d'êtres revêtus de riches et souples robes. C'était une délicate créature, haute d'environ 1,20 m, vêtue d'une tunique de pourpre, retenue à la taille par une ceinture de cuir. L'absence de tout signe de crainte dans sa contenance me frappa tout à coup. Puis il se tourna vers les deux autres qui le suivaient et leur parla dans une langue étrange, harmonieuse et très douce. Je leur indiquai du doigt de la machine, puis moi-même, ensuite me demandant un instant comment j'exprimerais l'idée du temps. Je montrai du doigt le soleil. Aussitôt, un gracieux et joli petit être suivit mon geste et, à mon grand étonnement, imita le bruit du tonnerre. Un instant, je fus stupéfait, encore que la signification de son geste m'apparut suffisamment claire. Vous savez que j'ai toujours cru que les gens qui vivront en l'année 802 000 et quelques nous auraient surpassés d'une façon incroyable, en science, en art et en toutes choses. Et voilà que l'un d'eux me posait tout à coup une question qui le plaçait au niveau intellectuel d'un enfant de 5 ans. L'un d'eux qui me demandait, en fait, si j'étais venu du soleil avec l'orage. Cela gâta l'opinion que je m'étais faite d'eux d'après leurs vêtements, leurs membres frêles et légers et leurs traits fragiles. Je fus fortement déçue. Pendant un moment, je crus que j'avais inutilement inventé la machine à voyager dans le temps. Les novums ou traces du futur sont relativement peu nombreuses dans ce passage, malgré l'altérité assez radicale de la période temporelle. Ainsi, après une statue de sphinx ailée, établissant d'une certaine façon la permanence des mythes dans l'histoire longue, mais aussi le passage du temps par l'érosion de la pierre, ce sont les habitants du futur éloigné qui immédiatement attirent l'attention du voyageur victorien. Leur petite taille, leur stature délicate, leur comportement sans crainte, leur langue douce, leur intelligence limitée, selon lui. Alors que le récit d'explorateur offre une structure narrative à l'expérience du futur, l'anthropologie et l'idée du progrès, qui se développe dès le 18e siècle et surtout au 19e, lui offrent un cadre cognitif clair. Difficile de ne pas voir dans la description de ces êtres une histoire naturelle de l'homme, expression qu'utilise Buffon pour définir l'anthropologie en 1749, dans son traité des variations de l'espèce humaine, ou même l'approche pragmatique de Kant, pour qui il s'agit d'étudier l'habitant de la Terre qui est inscrit par sa sensibilité et sa raison dans des relations empiriquement nécessaires avec les êtres du monde. Or, ce cadre anthropologique, un outil alors utilisé pour l'étude des humains passés et présents, est teinté par l'idée dominante du progrès lorsqu'il est conjugué au futur. Le progrès offre ainsi un récit du futur préalable aux voyageurs, pour qui il s'agit simplement de découvrir les traces, d'en constater le triomphe. Or, la théorie d'évolution de Darwin est passée par là et offre un contre-discours au progrès pour qui sait bien la lire. L'humanité, comme toutes les autres espèces, s'adaptera au changement de son environnement et à la compétition des autres espèces pour survivre, ce qui ne signifie pas que l'art et la science seront pour toujours les meilleures avenues adaptatives. Le voyageur est amèrement déçu par sa découverte parce que le futur ne promet pas forcément le prolongement de sa propre civilisation, de sa propre lecture du monde. Il s'agit là d'ailleurs d'une constante dans la plupart des récits de voyages temporels vers le futur. Ce que Wells sémiotise en fait, ce n'est pas la gloire et la projection dans 800 000 ans du progrès de l'anthropologie ou de la société victorienne, qui sont loin d'être à leur apogée en 1895. C'est plutôt une certaine mélancolie fin de siècle. Le voyage temporel reflète surtout un moment de transition historique, l'impression que collectivement la société sera projetée dans un autre monde et prendra d'autres formes difficilement prévisibles, sinon grâce au nouveau paradigme cognitif, l'évolution, plutôt qu'aux anciens, l'anthropologie et le progrès. Ainsi, si le voyageur croit son voyage inutile pendant un moment, la suite du récit de Wells lui offre largement de quoi réfléchir à l'avenir de l'humanité. Dès la seconde moitié du 19e siècle, on assiste aussi à l'émergence d'un autre modèle narratif, l'historiographie, qui utilise des schémas du passé comme point de référence. On peut voir deux types de narration historiographique à la première personne, sur le mode du témoignage d'un personnage historique du futur, généralement dans un futur rapproché, ou grâce à un narrateur un peu théorique qui se situe au bout du temps, à sa clôture, pour reprendre le terme de Jameson, tel un historien du temps long, offrant une perspective critique et une interprétation des forces historiques. Mais commençons par le premier exemple. À partir des années 1870, à la suite de la défaite inattendue des Français contre les Prussiens, un sous-genre littéraire apparaît et fait florès, la guerre du futur. Ce sous-genre a pour modèle un texte fondateur écrit par George Tompkins Chesney en 1871 et publié dans les journaux, « The Battle of Dorking, Reminiscences of a Volunteer ». Voici comment s'ouvre la nouvelle. You ask me to tell you, my grandchildren, something about my own share in the great events that happened 50 years ago. This sad work turning back to the bitter page in our history, but you may perhaps take profit in your new homes from the lesson it teaches. For us in England, it came too late, and yet we had plenty of warnings if we had only made use of them. Il continue ainsi de nombreuses lignes, exprimant son profond regret d'avoir été du mauvais côté de l'histoire, et s'excusant aux générations suivantes de n'avoir pas vu les signes. Le récit apparaît évidemment comme une leçon bien transparente. Puis le narrateur écrit en détail, pendant plusieurs pages, l'état de prospérité et d'expansion de la société anglaise avant que n'éclate la guerre 50 ans plus tôt. Enfin, « I need hardly to tell you how the crash came about. It was while we were in this state, with our ships all over the world and our little bit of an army cut up into detachments, that the secret treaty was published. The English were always an impulsive lot. The whole country was boiling over with indignation and the government, egged on by the press and going with the stream, declared war. » La première phrase de ce passage indique bien le paradoxe de l'historiographie du futur. Le destinataire, supposé par le texte, situé dans un futur encore plus éloigné que les événements racontés, est forcément déjà au courant de l'histoire. Il y a donc une tension narrative qui perdure tout au long et qui ne saurait se résoudre dans ce type de récit, dont les ficelles sont généralement assez visibles. Ici, la fiction joue un rôle idéologique clair et l'imaginaire du futur a une portée surtout rhétorique, jouant à la fois sur l'éthos, je vous raconte à quel point j'ai été imprévoyant, le pathos, vous, mes enfants, souffrez de mon imprévoyance, et le logos, le savoir militaire et l'histoire nous dit qu'il faut s'armer pour éviter cette situation. Le futur ne sert au fond qu'à offrir une pseudo-distance critique qui permet d'ajouter un argument hyperbolique de plus dans un débat qui a déjà lieu dans les journaux et sur la scène politique, c'est-à-dire s'armer pour éviter une éventuelle défaite contre les Allemands. La deuxième forme d'historiographie du futur se construit souvent sur un temps long et chronologique. Elle offre une vision unique et dominante, et elle se construit autour d'un moment fort de révolution, de personnages marquants, de forces collectives. Ce que l'on nomme l'histoire du futur vise à créer du sens en identifiant la chaîne causale qui nous amènera d'un point A, le présent, à un point B, un point clôture situé dans le futur, en l'horizon d'attente. Les exemples les plus spectaculaires de ce modèle est sans doute le roman d'Olaf Stapleton, Last and First Men, A Story of the Near and Far Future, paru en 1930. Très fortement influencé par le matérialisme historique de Marx et Engels, qui offre bien sûr des outils méthodologiques à qui veut prédire l'évolution des sociétés humaines, Stapleton fait une proposition impressionnante, quoique souvent profondément ennuyante, il faut le dire. C'est pas un roman très passionnant. Selon Frederick Jameson, qui est d'accord d'ailleurs, le roman de Stapleton est, je le cite, « une sorte d'imitation du discours historique ». Toute analyse du style de Stapleton enregistrera deux formes distinctes. Il y a une volonté indéniable de donner l'impression de temporalité gigantesque, du passage de rythme géologique et de durée incalculable. On pourra penser que seuls les très longs livres, Proust ou Mann, peuvent finir par produire cet effet cumulatif. En fait, chez Proust, c'est l'absence de temps que le présent perpétuel du narrateur enregistre. Mais c'est précisément le problème que Stapleton entend dépasser, car il ne veut pas gâcher des pages et des pages à produire un effet qu'il entend seulement présupposer. Son modèle est sans nul doute la machine à voyager dans le temps, mais dans ce roman, l'effet repose sur la machine et sur le montage des différentes époques. C'est la différence et l'identité radicale des Morlocks et des Eloy, Eloy étant ceux qu'on a vus tantôt, par rapport à notre présent humain qui permet de suggérer un immense écart temporel. Mais Stapleton souhaite montrer les tendances à l'œuvre dans ce temps qui s'écoule. Il se trouve par conséquent réduit à répéter puérilement de grands nombres. Cette société aérienne dura sans beaucoup changer pendant près de 100 millions d'années. Quantité que le lecteur ne saurait presque par définition estimer ou se représenter et qui finissent, quoi qu'il en soit, par fatiguer son esprit. Aussi, l'incipit du roman, donc de Stapleton, réaffirme le paradoxe de la narration du futur, mais présente la nouveauté d'inscrire ce paradoxe dans la relativité einsteinienne, publiée 25 ans plus tôt, je vous rappelle. This book has... Donc ça, c'est vraiment le début du livre de Stapleton, qui est assez fascinant parce que c'est une genre de préface qui est écrit par un naître du futur qui est en communication avec l'auteur au présent, un truc assez étrange. Et donc, je le cite, « This book has two authors, one contemporary with its readers, the other an inhabitant of an age which they would call the distant future. The brain that conceives and writes these sentences lives in the time of Einstein. Yet I, the true inspirer of this book, I who gave begotten it upon that brain, I who influenced that primitive being's conception, inhabit an age which, for Einstein, lies in the very remote future. » Puis celui qui se désigne comme un des derniers hommes tente d'établir un pacte de réel un peu surprenant, proposant au passage une réflexion sur l'artifice de la fiction et sur son pacte de lecture. « The actual writer thinks he is merely contriving a work of fiction. Though he seeks to tell a plausible story, he neither believes it himself, nor expects others to believe it. Yet this story is true. » Donc, il continue. Mais Stapleton n'est pas le seul ni le dernier à avoir tenté une histoire du futur. D'autres qui sont parvenus avec beaucoup plus de succès. C'est notamment le cas avec Fondation d'Isaac Asimov, qui consistait à rédiger un roman historique du futur en adoptant la structure de History of the Decline and Fall of the Roman Empire d'Edward Gibbon, et qui développa ainsi le concept de psychohistoire. Finalement, mentionnons un autre grand modèle de narrativité du futur, la dystopie, qui domine la fiction du futur au 20e siècle et qui s'est imposée surtout depuis la fin des années 40 avec l'apparition de 1984. Comme les narrateurs de Mercier et de Wells, qui se retrouvent étrangers dans un monde qu'ils décrivent, les protagonistes des récits dystopiques sont eux aussi seuls contre un monde dont ils refusent les règles généralement collectivistes. Mais il y a une différence majeure, ils viennent de cette époque. Ils la connaissent parfaitement et ne ressentent nullement le besoin de nous le rendre trop familier. Si l'utopie est la description d'un monde fixe et idéal, figé même, et donc une description sans péripéties véritables, le passage à la dystopie entraîne la narration d'un futur caractérisé par la lutte d'un individu, le protagoniste, contre les forces sociales et historiques. Si on peut s'identifier à sa quête, nous avons toutefois abandonné le besoin du narrateur voyageur temporel qui est notre contemporain. Comme tout récit distancié, en particulier de science-fiction, le destinataire est alors paradoxal. Il devrait se situer dans le futur et déjà connaître cette histoire, mais il se situe dans notre présent et doit compenser lui-même les innombrables indéterminations. On pourrait évoquer beaucoup d'autres formes de narrativité du futur. Je mentionnerai en passant les théories des mondes possibles qui permettent de créer des récits parallèles et multiples. Évidemment, cette théorie-là implique un important changement de paradigme cognitif, celle d'abandonner l'idée du destin, du futur fixe et inéluctable. Sur le plan narratif, c'est l'esthétique fragmentée du postmodernisme qui s'impose éventuellement, mais on peut déjà le constater chez Borges, ils sont sentis au chemin qui bifurque. À partir d'une étude des modes de sémiotisation de l'imaginaire du futur, donc que j'ai effleuré ici, de sa relation aux autres ensembles de représentations, je vous propose une ébauche de typologie des imaginaires du futur qui prend en compte les concepts développés par les critiques, anticipation, astrofuturisme, etc., les courants et sous-genres, donc je vais les mentionner après, donc les courants et sous-genres qui ont émergé, les pratiques anciennes et nouvelles qui visent à raconter ou montrer le futur. Ma typologie n'est donc pas strictement historique, mais elle comporte une certaine historicité. Ces catégories regroupent des formes et tendances cohérentes dans des imaginaires sociaux précis. Je propose ainsi 5 grandes catégories en fonction de la façon dont le futur y est représenté par rapport au présent et au passé, mais ces catégories sont aussi pour moi chacune caractérisées par une perspective singulière, révélatrice de l'époque dont elles sont issues. Donc voici les 5 catégories que je propose. Le futur inéluctable dans une perspective fataliste, le futur positif ou scientiste avec sa perspective optimiste, le futur antérieur ou cyclique qui se présente dans une perspective nostalgique, le futur impossible ou impensable avec sa perspective dysphorique ou pessimiste, et finalement le futur décentré adoptant une perspective identitaire ou culturelle. Ma première catégorie, le futur inéluctable, se développe dans une perspective fataliste, au sens fort du terme et non au sens de pessimisme. Il s'agit aussi de déterminisme, donc dans certains cas, donc selon le régime cognitif notamment. Du côté des régimes cognitifs magiques et religieux, on peut d'abord classer les différentes formes d'oracles, de prédictions, de divinations qui impliquent forcément un destin immuable. On les retrouve dans les différentes formes de prédictions, mais aussi dans les récits de fiction ou mythologiques plus larges. Ils agissent alors le plus souvent comme moteur narratif. Ensuite, les religions révélées, en particulier jusqu'à la Renaissance, mais aussi après, offre une vision de l'avenir déjà écrite, annoncée par un Dieu omniscient et omnipotent, qui révèle alors ses plans. La marge de manœuvre des humains dans cet avenir dépend des versions et des époques, mais elle est souvent inexistante. Puis le régime cognitif scientifique offre plusieurs prédictions d'un futur inéluctable, suivant les principes physiques de l'univers, ce que l'on nomme les lois de la physique ou de la nature, qui apparaissent comme universelles et immuables. Les exemples pourraient être nombreux, mais évoquons 3 ensembles de disciplines scientifiques qui produisent des récits de l'avenir, la météorologie et la climatologie, la thermodynamique et la cosmologie et la biologie. Dans cette optique, la science elle-même produit régulièrement des récits du futur, souvent accompagnés de pourcentages, de probabilités, de modèles animés qui évoluent. En fait, la science est entièrement fondée sur cette idée. On émet des hypothèses et on tente de prédire un phénomène à partir de notre compréhension actuelle du fonctionnement de la nature, avant de procéder à une expérience. Pensons à Einstein qui a prédit l'effet de la lentille gravitationnelle prouvée lors de l'observation d'une éclipse plusieurs années plus tard, donc en 1919. La fiction est également alimentée de ces prédictions scientifiques plus ou moins inévitables. Je mentionnerai la fiction climatique, la cli-fi, mais aussi les récits cybernétiques qui jouent sur l'idée de l'entropie comme principe fondamental, les récits évolutionnistes, hein, donc qui mettent en scène l'évolution humaine ou pas, et ceux qui mettent en scène des déterministes génétiques forts, comme le film Gattaca, par exemple. D'une certaine façon, on pourrait même aller plus loin et dire que tout récit qui met en scène le vieillissement humain est une forme de récit du futur inéluctable. Ensuite, le futur positif ou scientiste s'inscrit dans une perspective optimiste qui pose comme présupposé assez simple que la science et la raison permettent de prévoir et d'améliorer le futur. Cette perspective trouve bien sûr ses racines chez les Lumières, comme en témoigne l'an 2440 de Mercier. Évidemment, au 19e siècle, cette vision du futur se métamorphose un peu et se généralise, orientée par un concept idéologique central, hein, le progrès, et par Auguste Comte, qui écrit en 1830, dans la deuxième leçon du cours de philosophie positive, « Science, d'où prévoyance, prévoyance, d'où action ». Le régime cognitif en jeu dans cette catégorie d'imaginaire du futur est donc exclusivement scientifique et technique, ce qui ne signifie bien sûr pas qu'il est pour autant objectif ou dénué d'idéologie destructrice. Hein. Je cite Dominique Lecourt, qui nous rappelle que la devise positiviste « ordre et progrès » ne veut du progrès que s'il présente comme développement de l'ordre. L'esprit positif ne peut ni ne veut penser la tension qui oppose entre le réel et les différents virtuels, les ruptures qui peuvent s'en suivre dans les processus, la variété des rythmes qui les réagissent. Et donc, c'est aussi au nom de ce futur positif que se développe l'eugénisme. La connaissance de la génétique humaine nous donnerait ainsi les outils de modeler le futur de l'espèce pour le mieux. Et dans une même logique, mais qui n'est pas nécessairement que l'eugénisme, mais en général, fondée sur une compréhension matérialiste de l'histoire et sur les sciences sociales, Marx écrit aussi un récit communiste du futur qui inspire d'ailleurs des auteurs de fiction comme Stapleton, que j'ai déjà mentionné. Donc, mais bien avant Stapleton, un courant majeur qui dominait la littérature du 19e siècle est inévitable si on parle d'imaginaire du futur. Donc, autour de 1860, alors que Jules Verne commence à écrire, apparaît un genre littéraire qui sera nommé plus tard l'anticipation scientifique. Dans le roman des Possibles, Jean-François et Claire Barrel-Moisan en expliquent ainsi l'émergence, et je les cite. Dans le contexte des années 1860, époque d'un remarquable foisonnement éditorial autour de la vulgarisation, on constate ainsi une circulation médiatique des figures et des thèmes scientifiques et une interpénétration qui reflète la fascination ambiguë de toute une société pour les merveilles de la science. Source de rêves, mais aussi de craintes, ces révolutions technologiques incitent leurs spectateurs à se projeter dans le futur pour imaginer les transformations de la vie quotidienne et des relations sociales qu'elles induiront. Le roman d'anticipation se déploie dès lors comme un roman des possibles, tant scientifique que social. Au 19e siècle, on imagine surtout le siècle suivant et les novums principaux, les marqueurs fictionnels du futur, sont liés au transport, et en particulier au transport volant. Cela s'inscrit tout à fait dans un paradigme de l'urbanisation et du développement du chemin de fer en Europe qui est en train de modifier complètement le territoire et donc le temps qu'il faut pour le parcourir. Comme le dit Jules Verne, la Terre est devenue plus petite. Devant ce changement radical, les récits d'anticipation ont tendance à présumer que l'avenir ne sera que le présent prolongé dans la même logique que les bouleversements déjà visibles. Ainsi, dans l'idée d'anticipation, il y a très souvent celle de la continuité et très rarement celle de la rupture. Aussi, mentionnons que l'anticipation est largement à l'origine de la science-fiction, hein, qui naîtra au siècle suivant. Elle se développe tout particulièrement dans les revues et magazines populaires destinés à un très large public, de plus en plus alphabétisé et aussi beaucoup aux enfants. L'anticipation permet donc de développer un des premiers imaginaires du futur essentiellement populaire et vu comme un divertissement, mais aussi comme un puissant outil pédagogique de vulgarisation scientifique, tout comme l'astrofuturisme. DeWitt Douglas Kilgour invente le terme astrofuturisme en 1893 dans sa thèse qu'il publie en 2003. Donc, dès son introduction, il présente l'astrofuturisme comme un concept que l'on pourrait nommer sans mal un chronotope, qui est tout à fait intéressant sur le plan sociocritique puisqu'il se pose comme un imaginaire au croisement de plusieurs jalons historiques, sociaux, scientifiques, et dont le discours se présente de multiples manières, autant dans la littérature, l'ingénierie, la vulgarisation, la publicité. Je cite DeWitt Douglas Kilgour, « Devoted to breaking the limits placed on humanity by the surface on this planet, astrofuturism forecasts an escape from the terrestrial history. Its roots lie in the 19th century Euro-American preoccupation with imperial expansion and utopian speculation, which it recasts in the elsewhere and elsewhen of outer space. Astrofuturism imagines the good or perfect society not simply spatially, but in what might be called, to use Einstein's term, space-time. This idea of a space frontier serves contemporary America as the West, Surf the Nation in its Past. Donc, en gros, l'astrofuturisme a remplacé le western. It is the terrain onto which a manifest destiny is projected of a new frontier invalidating in 1893 closure of the western terrestrial frontier, but it is also the space of utopian desire. Selon Kilgore, l'astrofuturisme est une tradition qui s'est développée en même temps dans la fiction spéculative et dans la vulgarisation scientifique, au moment de la course à l'espace dans les années 50. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que c'est autant donc, dans les médias que dans la fiction. C'est un genre assez unique en ça. On peut voir des liens avec les récits de l'exploration spatiale qui ont précédé cette période, mais il faut ajouter à cette tradition littéraire ancienne un lien explicite avec de véritables projets d'ingénierie spatiale financés par le gouvernement et les militaires. Donc, les premiers astrofuturistes comme Wernher von Braun, Willy Ley ou Robert A. Heinlein rêvent de conquêtes spatiales alors qu'ils travaillent sur leurs fusées, tout comme ceux qui les suivent mais qui ne partagent pas leur vision politique de droite, comme Kim Stanley Robinson, par exemple, qui utilise le futur spatial comme l'espace-temps d'une expérimentation politique égalitaire. Aujourd'hui, on pourrait ajouter aux astrofuturistes les milliardaires américains comme Elon Musk ou Jeff Bezos, qui veulent coloniser Mars dans les prochaines années et en font un spectacle particulièrement théâtral. Et phallique, il faut bien dire. Malgré les différences idéologiques entre les astrofuturistes, tous partagent certains traits narratifs et poétiques, en particulier l'importance de la synecdoque et de l'allégorie, puisque les personnages qui peuplent ces romans incarnent le futur de l'humanité, mais aussi des savoirs historiques, politiques, littéraires et scientifiques spécifiques. Les récits sont toujours centrés sur les environnements qu'ils façonnent, explorent ou occupent, sur les machines qu'ils créent, contrôlent ou déploient. Finalement, à partir des années 50, on a vu apparaître aussi un discours futuriste très important chez plusieurs penseurs, vulgarisateurs. Donc, je vais passer assez vite sur cette partie-là parce que je pense que j'ai pas le temps. Mais en gros, c'est tout le mouvement de la science de l'avenir, c'est-à-dire la prospective, la futurologie, le transhumanisme. Donc, tout ça va dominer depuis les années 50, tout un tas de discours dominants. Donc, entre autres dans la fiction, mais surtout dans le calcul des probabilités, dans les prévisions économiques, politiques, technologiques surtout. Donc, troisième catégorie de futur, le futur antérieur, expression que j'emprunte à Jean-François Sands, commissaire d'une exposition du même nom ou encore cyclique, adopte une perspective résolument nostalgique. Ce futur émerge d'un présent obsédé par son passé, un présent qui s'efface, qui est escamoté. D'abord, mentionnons que dans un régime cognitif mythique, plusieurs récits cosmogoniques proposent une histoire du monde cyclique. On pourrait avoir l'impression que cette vision du monde correspond uniquement à une vision religieuse forte, mais elle est également son pendant du côté littéraire. L'épopée, la fantasy, de manière générale, fonctionnent de cette manière. Le futur est résolument mythique, voire mythologique. Par exemple, dans Star Wars et dans bien d'autres récits du genre, on assiste à un retour de l'imaginaire médiéval dans un contexte astrofuturiste. La très grande popularité de ce type de fiction en dit long sur l'impression d'un manque de valeur, de rituel dans la culture contemporaine. Selon Simon Reynolds, l'imaginaire utopique de ce début du 21e siècle ne dirige pas son regard vers l'ailleurs de demain, mais vers l'ailleurs d'hier, un hier vague et indistinct, soulignons-le, qui se contente de ressembler au passé sans en avoir l'épaisseur. D'une étrange manière, ce retour obsessionnel à un faux passé se révèle être autant un symptôme de la fameuse fin de l'histoire que de notre incapacité collective à projeter la moindre image d'un futur désirable ou prometteur. Ensuite, on peut voir dans de nombreuses fictions et représentations du futur de ce type un retour au primitif, à un monde pré-technologique. Ce retour peut se faire sur un mode mélancolique ou dystopique lorsqu'il s'agit de craindre la perte d'une civilisation, d'acquis culturels à la suite d'une catastrophe. Ainsi, plusieurs romans présentent des mondes devenus analphabètes après la destruction. On peut aussi voir de nombreux cas où le primitif sont plutôt des Édens que l'on voulait retrouver. Cette idée est déjà présente dans les religions judéo-chrétiennes, mais elle réémerge à différentes époques en crise, par exemple dans le mouvement hippie, le retour à la Terre, ou encore dans la négritude dont Josias nous a parlé il y a quelques semaines. Finalement, il y a le rétrofuturisme dans lequel se retrouvent plusieurs sous-genres. Le terme rétrofuturisme a été inventé par Lloyd Dunn en 83 comme une boutade pour nommer son magazine d'art graphique consacré à l'art du plagiat. Le rétrofuturisme présente une nostalgie de la vision du futur qu'avaient des époques passées. On imagine une temporalité dans laquelle notre présent n'aurait jamais eu lieu, passant directement du passé au futur, jouant sur les anachronismes et les disruptions dans l'esthétique passéiste mise en œuvre et la nature anticipée de ce qui est représenté. Le rétrofuturisme dépeint des scènes futuristes à l'aide de codes visuels datés. D'une certaine façon, on peut le voir comme une réaction au présentisme, sur lequel je reviens, une façon d'échapper à ce présent qui peut ressembler à une prison temporelle. Selon Jean-François Sands, malgré les nombreuses dystopies qui ont contribué à édifier le genre, le futur tel qu'il est décrit dans l'Anticipation ancienne nous apparaît souvent plus séduisant, plus poétique et au final moins déshumanisé que la fin de ce 21e siècle. Si la logique reste toujours la même, il existe plusieurs formes de rétrofuturisme en fonction de la période de référence du passé qui sert à y projeter le futur. Par exemple, le plus connu est sans doute le steampunk, qui utilise une esthétique du 19e et de sa révolution industrielle à la vapeur, hein, steam, des œuvres littéraires victoriennes et des récits d'anticipation. Lorsque la période de référence est plutôt les années 20 à 50, on parle plutôt de dieselpunk ou de néo-noir. Les exemples sont très nombreux, allant de Gattaca à Blade Runner. Si le steampunk est souvent assez positif, on idéalise un peu le 19e, le dieselpunk a tendance à être beaucoup moins nostalgique, utilisant l'esthétique du passé comme un avertissement plutôt qu'un éden. Les années 40 agissent comme leçon de l'histoire. Si le futur continue d'être génétique, comme dans Gattaca, il pourrait bien ressembler au passé, hein, donc à l'époque nazie. Un autre cas intéressant est celui de 2001 de Stanley Kubrick, qui est cité à propos du rétrofuturisme, et je trouve ça intéressant, qui associe le primitif et l'astrofuturisme grâce au montage cinématographique. Hein. On a l'os comme outil primitif qui se transforme en vaisseau spatial et crée une ellipse temporelle en escamotant complètement le présent. Donc, ce qui manque entre l'os au fond puis le vaisseau spatial, c'est notre époque. Finalement, mentionnons le cas du futur en ruine. Hein. Plusieurs imaginaires du futur éloigné, souvent post-apocalyptiques, mettent en scène de nombreuses ruines qui fonctionnent littéralement comme une archéologie du futur. Le quatrième et avant-dernier, donc, le futur impossible ou impensable. J'en viens à ma quatrième catégorie qui propose bien sûr une perspective plutôt dysphorique ou pessimiste. Je vois trois grandes tendances dans cette catégorie. Hein, un futur radicalement non désirable qui se déroule dans un monde dont la représentation vise à convaincre les contemporains d'éviter cette route à tout prix. Hein. C'est la bataille de Dorking, dont je parlais, les guerres du futur, mais aussi les catastrophes qui sont jugées évitables hein, en fonction d'actions que l'humanité pourrait prendre. Donc, on est vraiment dans l'idée de l'avertissement, entre autres démographique, climatologique. Donc, j'ai mis plusieurs exemples. Et finalement, les dystopies qui visent aussi à prévenir, mais sur le plan plus social. Ensuite, on a le futur invivable, et donc qui sont présentés dans un monde situé dans l'avenir, mais qui n'offre pas la moindre possibilité d'y vivre. Un monde détruit au point où il devient un horizon indépassable. Il s'agit des récits catastrophistes, apocalyptiques et post-apocalyptiques, qui dominent l'imaginaire de la science-fiction de la fin du 20e siècle, début du 21e. Donc, ils sont vraiment innombrables. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, on se projette dans le futur, mais le futur apparaît comme complètement vide ou complètement invivable. La troisième sous-catégorie de ce futur impossible est le présent indépassable. J'y classe l'idée de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, pour qui la fin de la guerre froide et la victoire du capitalisme néolibéral signifient que la dialectique historique a pris fin. Sur le plan imaginaire, on peut en effet constater qu'il semble quasi impossible de représenter un dépassement du capitalisme aujourd'hui. Nous serions devant un futur qui ne serait qu'une infinie répétition du même geste de consommation, donc un présent perpétuel. À cette fin de l'histoire, on peut ajouter une idée un peu similaire, quoique plus critique, hein, le présentisme. Cette idée apparaît chez de nombreux penseurs depuis le début des années 2000. Hein. Bertrand Gervais résume bien cette tendance, je le cite. « Pour certains historiens et sociologues, cet émiettement est au cœur d'un régime d'historicité contemporain. Il prend la forme d'un présentisme, d'une exacerbation du moment présent. Que ce présentisme décrive un présent sur le point d'exploser ou d'imploser, ce dernier demeure un temps incertain en raison des tensions qu'il traverse. » Marc Auger, de son côté, avance qu'il s'agit d'une conception du temps idéologique construit par le capitalisme mondialisé pour se préserver, je le cite. « Depuis une ou deux décennies, le présent est devenu hégémonique. Aux yeux du commun des mortels, il n'est plus issu de la lente maturation du passé, ne laisse plus transparaître les linéaments des possibles futurs, mais s'impose comme un fait accompli, accablant, dont le surgissement soudain escamote le passé et sature l'imagination de l'avenir. » Et donc, je conclue sur ma cinquième catégorie. Je suis désolée d'être un peu longue. De toute façon, ça va être assez bref. Pour terminer, j'aborderai donc ce futur que je nomme décentré, puisque les travaux de Gina s'inscrivent dans cette logique-là, qui sont donc une perspective que je dirais identitaire au sens individuel ou collectif ou culturel. Je n'ai pas pris une métaphore spatiale sans raison pour définir cette catégorie. Il s'agit véritablement d'un décentrement identitaire, communautaire, voire spéciste. Ces exemples de futur replacent certains individus ou communautés marginalisées dans la société du passé ou du présent pour en faire dans le futur le centre de l'attention et parfois du pouvoir. Cette idée du décentrement ou du recentrement est d'ailleurs au cœur même de plusieurs perspectives post-humanistes. Il peut donc s'agir d'un décentrement post-colonial, féministe, de genre, etc., mais aussi d'un dépassement de l'anthropocentrisme au profit des animaux non humains ou des êtres artificiels. Ce qui est intéressant dans cet imaginaire du futur très prégnant aujourd'hui est qu'il permet un retour prudent à un optimisme qui ne serait pas strictement scientiste et offre d'une certaine façon une porte de sortie au rétrofuturisme, au post-apocalyptique et au présentisme qui semble bloquer l'imaginaire du futur depuis plusieurs décennies déjà. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement dit de scientisme, la science et la technologie jouent souvent un rôle de soutien, hein, d'empowerment, et le progrès, au sens plus contemporain du progressisme culturel, hein, celui que semblait détester tant Éric Zemmour il y a quelques semaines. Sur un plan plus formel, ses discours et ses œuvres s'inspirent souvent du modèle utopique ou uchronique, identifiant un problème unique et systémique, hein, le racisme, le sexisme, le spécisme, et offrant une vision du futur basée sur la résolution de ce problème spécifique, pour reprendre Jameson que je sais au début. Or, s'ils s'inspirent du modèle utopique, ils n'y correspondent pas précisément et on assiste à un déplacement assez important. Ce type d'œuvre ou de discours est souvent une prise de parole identitaire forte qui peut avoir une fonction performative et qui émane des communautés marginalisées elles-mêmes. Il y a donc un investissement personnel qui n'est pas présent dans la plupart des utopies, dont l'énonciation elle-même n'est pas un changement en soi. La prise de parole et la projection vers le futur de paroles normalement marginalisées ou tues est en soi une certaine forme de recentrement. Notons aussi que si le discours sous-jacent peut être porteur d'un certain optimisme et emprunte à l'utopie, ses œuvres ont souvent une forme dystopique. Le dépassement de logiques anciennes de pouvoir passe bien souvent par une poétique du contraste, de l'inversion. On utilise le cliché pour le resémantiser, l'hyperbole, la prosopopée. En plus des modèles narratifs, le futurisme documentaire est parfois utilisé, donc récemment, pour sémiotiser un futur marginal, lui donnant ainsi une grande puissance rhétorique. Donc, qui est inspiré, entre autres, de l'afrofuturisme et du futurisme autochtone. Mais dans cette catégorie du futur décentré, je classe que pas seulement ces deux catégories-là, mais aussi les visions féministes ou post-genrées du futur, le post-humanisme, etc. Donc, cette liste est amenée à s'allonger dans les prochaines années à cause de son ancrage fort dans l'imaginaire social contemporain.